Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, alors que nous venons de fêter la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint, nous avons fait un cycle complet, nous sommes arrivés à nous réjouir de la constitution de l'Église et maintenant de sa marche dans le siècle jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans le temps de l'Esprit-Saint. Le temps après le Christ, c'est le temps de l'Esprit-Saint et qui va durer jusqu'à la fin du monde. C'est lui, l'Esprit-Saint, qui nous amène au Père, qui nous sanctifie, qui nous transforme et qui fait de nous de vrais chrétiens. Et le Saint-Père, l'année dernière, le pape François, a pensé établir une nouvelle fête, dans l'Église on ne s'arrête jamais, d'établir une nouvelle fête et de l'établir le lendemain de la Pentecôte pour en faire Notre-Dame, mère de l'Église, Mater Ecclesiae. Alors ce n'est pas une invention d'un seul coup, hein, parce que saint Ambroise de Milan au IVe siècle parlait déjà de Marie, mère de l'Église. Vous voyez, ce n'est pas tout neuf, mais c'est vrai qu'on l'a redécouvert au XXe siècle, notamment grâce à un jésuite, Hugo Rahner. Il ne faut pas le confondre avec Karl Rahner, ce n'est pas la même théologie. Hugo Rahner est plus ma faveur, on va dire. Et on a redécouvert la signification du sens de Marie, mère de l'Église. Tant et si bien que à l'arrivée du Concile Vatican II, il s'est beaucoup discuté de la place de Marie dans l'Église, et plutôt que de traiter de Marie à côté de l'Église, on l'a traitée dans l'Église. Le document s'appelle Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église, et Marie en est le couronnement. Elle est le couronnement de l'Église. Et puis, le Concile est allé presque aussi loin, mais c'est le pape qui l'a poussé jusqu'au dernier bout, en fermant le Concile, qui a duré de 1962 à 1965, lorsque le Saint-Père, le pape Paul VI, a proclamé le dernier document, Lumen Gentium, sur l'Église. Il a dit la chose suivante, il a proclamé Marie d'un nouveau titre, Marie mère de l'Église. À la gloire de la bienheureuse Vierge Marie, et pour notre réconfort, nous proclamons, c'est une déclaration solennelle, le pape parle d'un pluriel de majesté, nous proclamons Marie, très sainte, mère de l'Église, c'est-à-dire mère de tous les peuples de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l'appellent la mère très aimante. Voilà cette déclaration faite en 1965, il a fallu attendre 2019, dans l'Église on prend toujours son temps, pour que cette proclamation donne lieu à une fête particulière, qui est placé, vous l'avez compris, à un endroit extrêmement important, c'est-à-dire juste le lendemain où on vient de fêter la constitution de l'Église et son début dans le monde. Et immédiatement, on fête Marie. Je ne vous fais pas une longue prédication, mais une petite méditation sur le texte que nous venons d'entendre de saint Marc, la clôture, la tour et la vigne. Oui, l'Église, notre mère, est comparée à cette clôture, cette tour et cette vigne. Une clôture d'abord. Une clôture non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour nous garder. Pour nous garder avec lui. Ce qui nous garde dans l'Église, ce qui fait que nous sommes dans l'Église, comme nous le sommes physiquement dans cette construction qui s'appelle aussi une Église, mais le fait que nous sommes dans l'Église mystique du Christ, c'est que nous avons la foi, c'est qu'il y a un corps, un cœur et une action. Le corps de l'Église, c'est sa hiérarchie. Le cœur de l'Église, c'est sa foi. L'action de l'Église, c'est les sacrements. Vous voyez pourquoi on a appelé ce bâtiment une Église ? Parce que justement, ici, il y a un corps, des prêtres, des diacres. J'en profite pour dire que nos diacres nous faisant défaut, eh bien, mon confrère, l'abbé Iborra, qui est prêtre, mais qui est aussi diacre pour toujours, eh bien, diacone à cette messe. Et donc il y a un corps, il y a la hiérarchie de l'Église, les prêtres, les diacres, les fidèles. Il y a un cœur, nous allons tout à l'heure proclamer la foi, c'est ce qui fait que nous sommes dedans vraiment, pas juste en train de visiter l'Église, mais dans cette Église à titre personnel. Et il y a une action, c'est le sacrement, c'est ce que je vais célébrer, la Sainte Messe. Eh bien Marie est à l'initiative de tout ce corps de l'Église, de toute cette clôture qui nous garde. Marie est à l'origine du corps de l'Église, Souvenez-vous, c'était à Cana, après que le Seigneur ait choisi ses apôtres. C'est elle qui provoque le miracle. Et l'évangéliste nous dit bien, ils crurent en lui à partir de ce moment-là, parce qu'il manifesta sa gloire. Marie est donc à l'origine du corps de l'Église, le Christ, mais aussi à l'origine de sa hiérarchie, les apôtres. Marie est à l'origine du cœur de l'Église. C'est elle qui va révéler aux évangélistes, notamment à saint Jean et à saint Luc, les détails que les autres ne connaîtront pas de la jeunesse du Christ, de ce qui s'est passé au pied de la croix, de ce qu'il a dit. Marie va révéler cela. Enfin, elle est aussi à l'origine des sacrements, non pas que ce soit elle qui les crée ou qui les célèbre, mais c'est elle la première qui les a reçus. Les sacrements sont nés dans leur vivification au pied de la croix, du côté ouvert du Christ d'où il jaillit du sang et de l'eau, et c'est Marie, la première, qui reçut cette vivification des sacrements. Vous voyez ce qui constitue la clôture de l'Église, ce qui fait qu'on est dedans, eh bien, et ne peut pas se faire sans Marie. C'est aussi une tour que l'Église, c'est-à-dire quelque chose qui veille, quelque chose qui s'établit pour rayonner. Une tour, ça se voit de haut, et c'est à la Pentecôte que va se constituer vraiment l'Église d'une manière fonctionnelle. Jusque-là, elle était en gestation et maintenant, elle fonctionne. Les apôtres se mettent à évangéliser, il y a des conversions, ils vont partir dans tous les coins évangéliser jusqu'au bout du monde pour certains. Je pense à saint Thomas, jusqu'aux Indes, à saint Jacques de l'autre côté, en Espagne. Cette Église qui s'est constituée définitivement à la Pentecôte va se rassembler encore autour de Marie, où elle préside de nouveau à la réception de l'Esprit-Saint et où les apôtres vont se rassembler encore autour de son corps à sa mort. Marie a accompagné, après le départ du Christ, l'Église, petit enfant en quelque sorte, et l'a amenée jusqu'à sa maturité, cette Pentecôte qui signe que l'Église est bien catholique, c'est-à-dire qu'elle va dans le monde entier et que sa foi est entière. C'est le sens de l'universalité de l'Église. Eh bien, Marie était à la Pentecôte et Marie est toujours le signe de la catholicité de l'Église. Là où vous voyez la Vierge, vous pouvez savoir que là est l'Église. C'est un signe de catholicité. Si vous ne voyez pas dans une œuvre quelconque la Sainte Vierge, demandez-vous si ceux qui ont fait cette œuvre ont vraiment lu l'Évangile. Demandez-vous s'ils ont vraiment compris que la Vierge était là, de l'Annonciation jusqu'au départ du Christ sur la croix, jusqu'au début de l'Église. Bref, s'ils ont bien compris que le passage par Marie était rendu nécessaire par la volonté de Dieu qui est passée par elle. Marie est donc cette tour de l'Église également. Si elle nous aide à en garder la clôture, elle est aussi la tour de l'Église. Enfin, la troisième image utilisée par saint Marc, c'est la vigne. Une image classique dans l'Ancien Testament. La vigne, c'est le peuple de Dieu. C'est la vitalité et c'est l'engendrement. Cette vigne qui engendre sans cesse, qui engendre encore de nos jours. Nous allons baptiser ceux que nous n'avons pas pu baptiser à la veillée pascale. Nous les baptiserons la semaine prochaine, dimanche prochain. Et l'Église sans cesse continue d'engendrer des enfants par le baptême. Si l'Église engendre des enfants, c'est à l'image de Marie qui est mère. Alors bien sûr, depuis toujours, on le sait, Marie est mère de Dieu. Enfin, depuis toujours, on le dit. Il a fallu un concile pour s'en persuader. Parce que les chrétiens, immédiatement, ont appelé Marie mère du Christ et mère de Dieu. Et puis, on s'est demandé, parce que les théologiens viennent toujours après la piété, c'est d'abord le peuple de Dieu qui prie, le bon sens de la foi, et après la théologie examine, réfléchit et ratifie par la puissance du magistère de l'Église. Eh bien, c'est au concile d'Éphèse où on s'est demandé si Marie était vraiment mère de Dieu, ce qui semblait un peu impossible quand même pour une femme. Mais on s'est dit, si Marie
et mère du Christ, et que le Christ est vraiment Dieu, vraiment homme, qu'il est un, qu'il n'est pas séparé en deux, alors Marie, qui a engendré le corps du Christ, le corps de Jésus, a donc aussi engendré, Dieu a voulu être engendré par une femme, c'est-à-dire qu'il a voulu, c'est ça l'incarnation pour de vrai, si on dit bien Marie, mère de Dieu, c'est parce que l'incarnation est vraie, que Dieu n'a pas fait semblant, qu'il n'est pas passé, qu'il ne s'est pas montré, mais qu'il est vraiment devenu homme, et donc que Marie est vraiment sa mère, et qu'elle est vraiment mère de Dieu. Et en devenant mère de Dieu, en ayant engendré le chef, le début de l'Église, le corps même de l'Église, en l'ayant engendré ce chef, elle engendre le corps tout entier que nous sommes. Voilà pourquoi Paul VI dira « Aussi bien des fidèles que des pasteurs, elle est la mère. Elle est la mère qui enseigne, elle est la mère qui engendre. Marie, mère de l'Église, maintenant que nous l'avons proclamée telle, nous nous demandons comment nous avons pu ne pas y penser avant. Laissez-vous engendrer par Marie, laissez-vous garder par Marie, restez dans l'Église avec Marie, c'est ainsi que vous serez vraiment chrétien. » C'est ainsi que vous serez vraiment des frères du Christ, engendrés par la même mère. C'est ainsi vraiment que vous vivrez éternellement. Ainsi soit-il.